Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement avec Pierre-Yves de Rolin et Benjamin de la Gâtinais aujourd'hui à la technique et assisté de Jean-Baptiste Audibert, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Alors avant de voir ce qui se cache derrière ce terme d'éco-construction, une petite humeur en forme de voyage, ou cela, un petit tour en Égypte. Et oui, en Égypte, on ne joue pas qu'au football. L'autre sport national depuis l'Antiquité, c'est la chasse au trésor. Et cette année, parmi les équipes venues du monde entier dans la Vallée des Rois, c'est celle des États-Unis qui part favorite. Alors, la Vallée des Rois, je vais vous la situer. Vous descendez le Nil à partir d'Assouan, vous passez les cités d'Esna et d'Edfou, et c'est tout de suite à gauche, vous voyez, après Louxor, au flanc d'une montagne aride où les pharaons s'efforcent de dormir en paix depuis 3500 ans, et croyez-moi, c'est pas toujours simple. Or, la tradition, quand on est pharaon, vous le savez, c'est d'emporter ses richesses avec soi pour voyager dans l'au-delà. La Vallée des Rois, avec tous ses tombeaux, c'est l'endroit rêvé, on le sait, pour les concours de chasse au trésor. On se souvient qu'en 1922, c'est une équipe anglaise qui a découvert le trésor de Toutankhamon. Pour l'instant, l'équipe américaine n'a trouvé que des sarcophages vides, mais qui sait ? Et la France dans tout ça ? Eh bien, en France, donc, on déterre les blaireaux, les renards, les bombes des dernières guerres, les fûts de produits toxiques oubliés par de nombreuses entreprises jusque dans les années 80. Mais quand même, on a le tombeau de Napoléon, on a les tumulus de Carnac, on a les grottes de Lascaux, on a l'Avène d'Ornac et le trou de la sécurité sociale. Bref, à part quelques cas isolés de PDG peu scrupuleux goinfres de stock options, on a peu de chance de tomber sur un magot enfoui au fond du jardin. En revanche, eh bien, en France, on a décidé que l'enterrage systématique, c'était la solution au problème du stockage des déchets dangereux. Alors, vive l'enfouissement durable et rendez-vous dans quelques milliers d'années pour visiter les cavernes d'Ali Baba version déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'ils vont bien s'amuser, les explorateurs futurs ? Oui, avec les trésors que nous leur concoctons, radium, américium, neptunium, rien que des produits qui vous filent le cancer à 1 km et qui restent radioactifs pendant des millénaires. Et je me disais tout de même, pour les prévenir, hein, à l'entrée des tumulus radioactifs, je ne sais pas où ils seront, enfin voilà, on pourrait peut-être accrocher un écriteau du genre « Ami explorateur, ici tu n'es pas en Égypte, alors laisse tomber le short et la crème solaire, et pour ta protection, choisis plutôt un scaphandre en plomb ». Ah là là, je ne sais pas si les tumulus seront fabriqués comme ça avec ce que l'on va vous raconter aujourd'hui, donc cette fameuse éco-construction. De nombreux invités en direct dans cette émission, à commencer par Yvan Saint-Jour, qui est le rédacteur en chef de cette formidable revue donc, qui s'appelle La Maison écologique. Vous avez évidemment toutes les données sur le site de France Inter, consacré d'ailleurs son dernier numéro à l'habitat passif. Donc on va voir ce que c'est, mais on va parler peut-être plus généralement de ce qu'on appelle l'éco-construction. Yvan Saint-Jour, bonjour.
Bonjour Denis.
Yvan, donc le principe, les enjeux de l'éco-construction, une définition pour que l'on comprenne bien, que l'on sache de quoi nous parlons aujourd'hui.
Alors on va essayer de définir rapidement l'éco-construction, c'est toujours un peu un exercice un peu délicat. Je pense qu'il faut d'abord bien voir qu'on est ici dans un terme, dans une partie sanitaire, donc là on va essayer d'avoir des matériaux qui seront sains pour tout le monde, c'est-à-dire sains pour ceux qui les fabriquent, sains pour ceux qui les mettent en œuvre, les artisans, les ouvriers, tout ça, et sains pour ceux qui vont vivre dedans après. Ensuite, on va essayer donc d'avoir plutôt la partie écologie environnementale. Donc là, ben, ça va être sain pour qui ? Pour la planète. Donc on va essayer de plutôt préférer des matériaux qui ont un très faible impact sur l'environnement et qui consomment le moins d'énergie possible.
C'est-à-dire cette fameuse énergie grise dont on parle. Moi, je vais prendre un autre exemple. Lorsque, par exemple, en plein hiver, on va manger des fraises qui viennent du Chili, ça veut dire que derrière un kilo, il y a peut-être un litre de kérosène.
Bon. Voilà, exactement. Alors, la fraise n'a pas le goût du kérosène.
Non. Pas encore, mais ça c'est dans la tête. Mais donc c'est pareil aussi pour les matériaux qu'on
utilise.
Exactement,
donc on va essayer de privilégier les matériaux qui vont consommer le moins d'énergie possible.
Donc ça veut dire que c'est plus des matériaux locaux.
Voilà, c'est justement, on privilégie les matériaux locaux, les matériaux de proximité, quand c'est possible, parce qu'on va le voir dans l'émission, c'est pas bien sûr tout le temps possible. Alors bien sûr, là on va diminuer aussi le transport et puis les embouteillages sur les routes. Et on va favoriser aussi l'économie locale, donc les matériaux écologiques, la construction écologique, c'est aussi social.
D'accord. Donc ça, c'est effectivement une définition. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter? Samuel Courget, vous êtes avec nous. Alors Samuel Courget, vous êtes à la fois ingénieur, vous êtes chargé de mission, approche environnementale à l'AGENA. L'AGENA, ça signifie énergie et environnement en Franche-Comté. Vous avez écrit un ouvrage avec Jean-Pierre Oliva qui s'appelle « La conception bioclimatique », là aussi un autre terme que l'on va définir tout à l'heure. Mais donc pour vous, l'éco-construction, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a aussi un petit peu envie de balayer des idées reçues.
Alors, par rapport à la définition qu'ils vont un jour à donner là tout de suite, j'insisterai beaucoup plus sur un troisième point qui est la performance thermique des bâtiments. Donc, grosso modo, un bâtiment n'est pas seulement vertueux parce qu'il a des matériaux qui sont sympathiques vis-à-vis de l'environnement, il est aussi vertueux par si il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour être amener la température confortable l'hiver et s'il n'a pas besoin de clim, en tout cas de système de rafraîchissement l'été. Donc ça, pour moi, c'est un peu plus complexe et on sait que quand on fait le bilan environnemental global d'un bâtiment, la partie qui coûte le plus à l'environnement, c'est l'énergie nécessaire pour le chauffage.
Et donc c'est le chauffage effectivement en priorité, c'est vraiment ça qu'il faut retenir.
Tout à fait. D'accord. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'éco-construction sans sous-entendre que le bâtiment est performant thermiquement.
Oui, donc vous l'avez dit, mais quand même qu'on l'entende bien, utiliser des matériaux naturels, ce n'est pas pour vous suffisant pour en faire un bâtiment vertueux.
Tout à fait.
C'est une des clés, bien sûr, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc on parlera aussi tout à l'heure avec vous du béton, parce qu'on a reçu beaucoup de courriels sur le béton, vilain, pas beau, etc. Et tout ça. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça, voilà. Et donc on va découvrir cet univers-là de l'éco-construction, qu'est-ce que l'on peut faire. On en parlera aussi en matière de rénovation, parce que c'est important, hein, je crois, Yvan Saint-Jour, que le gros du parc, il est quand même là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de maisons qui ont été construites, parfois depuis du bon sens, d'autres pas du tout, d'autres très très bien, base de béton et tout ça, mais l'isolation, c'est pas exactement ça. Donc, est-ce que là, l'éco-construction peut aussi apporter éventuellement une réponse ou...
Alors oui, l'éco-construction peut apporter une réponse. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile dans le domaine de la rénovation, de la restauration que dans la construction neuve. Mais il y a des réponses aussi adaptées, il y a des réponses techniques pour justement, pour rejoindre ce que disait Samuel, pour pouvoir obtenir des bâtiments qui sont le moins passoire possible, qui sont le plus économes en énergie, parce que l'énergie, c'est effectivement ce qui va nous motiver dans les prochaines années.
Voilà, il paraît.
Vous avez dans les prochains siècles.
C'est ça. Et c'est pas fini. En plus, il y a une inertie qui est extrêmement folle. Mais donc, on peut quand même faire quelque chose. Vous en prie, Samuel Courget.
Oui, par rapport à la proportion réhabilitation du parc existant ou neuf, il faut intégrer que le neuf, c'est environ 1% chaque année du parc. Donc, 99% représentent le parc de bâtiments existants. Ouais. Et si on veut être pertinent, je dirais la priorité des priorités environnementales, c'est tout de même d'être pertinent au niveau de la limitation de production de gaz à effet de serre. Et donc, c'est le gros marché, le point principal sur lequel il faut effectivement travailler pour avoir des résultats efficaces.
C'est vrai qu'on est tout à fait fasciné, c'est normal, par ce qu'on appelle les maisons passives, et là on fera bien la différence, mais ce n'est pas évidemment forcément le gros du parc. Une petite réaction, Yvan Saint-Jour ?
Oui, c'est vrai que c'est vraiment là où il y a le plus de travail, et c'est vrai que pour l'instant l'éco-construction s'en est plutôt tenu à expérimenter dans un premier temps, et puis maintenant à vraiment avoir, on a validé je pense des tas et des tas de techniques qui sont vraiment extrêmement intéressantes dans la construction. C'est vrai que cette partie-là, elle n'est pas gagnée pour l'éco-construction, pour amener des matériaux écologiques dans la rénovation. Je pense que c'est moins facile.
Il y a aussi une réalité effectivement historique de l'éco-construction. Au départ, c'est plus facile de se faire la main sur la maison individuelle. Oui. Mais il faut comprendre, là encore, que si on veut être vertueux réellement vis-à-vis de l'environnement, la maison individuelle n'est pas le produit qui part bien placé.
Oui. Non, mais vous voyez, effectivement, comme quoi c'est quand même assez, assez complexe. Et puis, on va parler des différents matériaux dans quelques instants. Moi, je vous propose de nous offrir un petit CD. Je ne sais pas si on peut le recycler, ça. Vous voyez, on a souvent, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et non, très souvent, ça part en décharge ou en incinération. Mais comme celui-là, il est très bon, on va le garder dans notre discothèque. Évidemment, c'est l'autre jour, tu viens, richesse.
Change pas, tu viens richesse et tu t'en vas. change pas. Ton nom est le plus beau quand tu le donnes en partage comme un trésor sans fin. Ton nom est pollen et ombre, ton nom sacre de l'instant. Moi, l'enfant qui te fane.
Alors, ce pavillon, il est construit ?
Ça y est, on est dedans.
T'as pris le modèle où il n'y a plus que le plancher à poser ?
Ouais. Puis le toit aussi.
C'est l'affaire de 2-3 ans de travail, hein ? Et encore en travaillant pas les jours fériés.
Bon, surtout que le toit, c'est facile, c'est des plaques cartonnées imperméabilisées. Donc il y a un papier qui protège dessus comme du papier toilette, mais qui résiste à l'eau.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Bon, j'adore ça, nous c'est désopilant, mais oui, Chevalier Las Palès, qui sont les comiques préférés de mon réalisateur Xavier Pestugia. Alors, donc, nous allons poursuivre ce petit voyage avec vous dans le domaine de l'éco-construction, avec Yvan Saint-Jour, avec Samuel Courget et Thierry Bafou, que vous n'avez pas encore entendu. On a prononcé le mot de bioclimatisme. Alors là, qu'est-ce que c'est le bioclimatisme? J'ai un petit peu envie de comprendre. Yvan Saint-Jour.
Alors, bioclimatisme, donc c'est un terme qu'on entend depuis pas mal d'années, vu qu'il est né dans les années 70, et en fait, le bioclimatisme, c'est concevoir la maison, concevoir une habitation, un bâtiment, avec le climat. C'est-à-dire que chez nous, on va préférer ouvrir beaucoup de baies vitrées en plein sud, mais se protéger du soleil en faisant un débord de toiture suffisant pour que l'été, ça ne devienne pas une fournaise. Et puis, on va créer des zones tampons, des espaces plutôt dans la partie nord, donc qui va être plutôt, elle, fermée. On va amener de l'inertie, c'est-à-dire des matériaux lourds qui vont pouvoir stocker la chaleur en hiver et qui vont pouvoir apporter plutôt de la fraîcheur en été à l'intérieur de la maison. On va bien sûr très bien isoler. Et puis après, avec de la végétalisation, on va pouvoir compléter l'ensemble.
C'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment au lieu de la construction, hein, c'est-à-dire c'est ça.
Ouais.
Et on n'est pas forcément dans les normes universelles enfin, actuelles. Quoi, donc
on... Non, voilà, ça, c'est vraiment le bioclimatisme, c'est construire intelligemment avec le climat dans une perspective. Dans une perspective d'économie d'énergie. Là, on n'est pas forcément dans une perspective éco-construction.
Oui, Samuel Courget, sur ce thème.
Alors, je trouve la définition assez complète. Par rapport à l'origine du bioclimatisme, donc, je dirais que c'est né d'abord aux États-Unis dans les années 60-70, et puis il y a eu un boom réel en France dans les années 75-80 suite au choc pétrolier. Malheureusement, je dirais les professionnels sont là depuis 25-30 ans, mais on ne leur commande pas forcément d'ouvrages bioclimatiques parce que le prix de l'énergie a chuté et avec le prix de l'énergie, les commandes de bâtiments performants. Donc, avantage actuellement du pétrole, des cours de l'énergie d'une manière générale qui suivent le cours du pétrole, qui augmente. Et là, je dirais, ces professionnels qui font de fait autre chose parce qu'on ne leur demande pas des bâtiments performants, là sont en train de prendre plaisir à avoir à répondre à des nouvelles commandes de bâtiments bioclimatiques, donc bien conçus et conçus de manière économique.
Oui.
Par le but, c'est plus du bon sens, jouer avec le climat local, faire preuve de bon sens pour des bâtiments qui tirent au maximum profit de la réalité de l'environnement proche et des calories gratuites du soleil.
Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça. C'est-à-dire que le fait que l'on n'ait pas payé, que l'on ait construit nos sociétés sur de l'énergie pas chère, ça a toujours été ça, que ce soit pour rouler, pour se transporter, pour construire, etc. C'est-à-dire que ça n'a pas incité, évidemment, non plus à construire. On s'est dit, on peut construire, mettons, je ne sais pas, en béton, avec une isolation, on va dire, moyenne, et puis après, on va rajouter du chauffage, puisqu'il ne coûte pas cher. Ça a toujours été ça. Thierry Bafou, ça, c'est intéressant d'en parler avec vous. Vous avez alors une autre histoire, mais ça va rejoindre ce que je dis là. Vous êtes à la fois agriculteur, vous êtes boulanger, vous êtes autoconstructeur, vous habitez à Athée en moyenne, et puis vous avez fait donc un voyage avec votre épouse et vos enfants autour du monde. C'était en 1998 et jusque dans les années 2000. Et vous aviez un fil conducteur qui était l'habitat. Donc, vous avez étudié comment les différentes populations construisent et avec quels matériaux.
Oui. Bonjour. Oui, le fil conducteur, c'était l'architecture dans le but de concevoir les plans d'une maison et de la réaliser au retour du voyage. Et on a pu remarquer dans ce tour du monde, en fait, même s'il était incomplet, qu'il y avait une certaine corrélation chez les gens qui cherchaient à avoir une perspective économe en énergie et la plus respectueuse de l'environnement. C'est qu'ils cherchaient de manière systématique à construire avec les matériaux les plus locaux possibles,
oui,
et à suivre les préceptes de l'habitat bioclimatique. Alors, par matériaux les plus locaux possibles, très souvent, on retrouvait la terre, comme l'a dit Yvan tout à l'heure, pour jouer le rôle de régulateur thermique et hygrométrique. On retrouvait très, très souvent des fibres végétales ou animales, à savoir la paille, le chanvre, la laine de mouton, la plume de canard, etc. Et on retrouvait quasiment de manière systématique le bois pour faire la structure. Et donc ce sont des principes que nous on a repris dans la maison qu'on a construite à Athée, au sud de Mayenne.
Alors qu'elle est devenue une maison témoin incroyable, parce que alors c'est presque un hall de gare, il y a eu 4000 personnes qui sont passées pour visiter cette maison.
À tel point qu'en fait on a reconstruit une autre maison à côté, qui va nous servir de support pédagogique, puisque ça pesait un petit peu à toute la famille d'accueillir autant de personnes tous les ans. Et donc nous, pour concevoir cette maison, on a suivi deux grands axes. Le premier, c'est de choisir des matériaux qui soit à faible impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on va choisir des matériaux qui sont faits, qui consomment peu d'énergie grise, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des matériaux qui nécessitent peu de transport et qui nécessitent peu d'énergie dans leur transformation. Pour notre maison, on a choisi la terre, puisqu'on l'avait sur le site, la paille, puisque nous sommes paysans, et puis le bois, parce que c'est un matériau qu'on peut trouver plus localement possible.
Certaines personnes nous écoutent et se disent, mais c'est incroyable, on parle de paille encore au 21e siècle. Bon, on va expliquer ça, parce que là, non, mais vraiment, c'est-à-dire que les uns les autres, vous êtes extrêmement rigoureux dans votre démarche, quoi. C'est pas du tout le côté, on va retour à la nature, pas du tout, c'est pas ça. La paille, on la met où? D'abord, rappelez que c'est un excellent isolant, ça se met entre quoi et quoi, la paille?
La paille, justement, on va l'utiliser comme isolant, puisque c'est un excellent isolant, donc on va l'utiliser pour l'enveloppe de la maison. C'est-à-dire pour la protéger du froid ou du chaud selon le moment de l'année.
Non, mais elle encastre entre quoi?
On l'encastre dans la structure bois.
C'est-à-dire
que très souvent, dans ce genre de construction, on arrive à une ossature bois. une charpente qui va descendre jusqu'au sol avec des poteaux. Et c'est dans l'enveloppe, dans tous les murs extérieurs qui sont faits en bois, que l'on va coincer la fibre végétale. Et la terre dont on parlait tout à l'heure, hein, qui va nous servir de masse thermique et de régulateur hygrométrique, on va la mettre à l'intérieur de la maison, avec des masses assez importantes, hein, pour la maison qui est la nôtre. On a à peu près 25 tonnes de terre. Donc 25 tonnes de terre, quand on a cette masse-là qui est à 19 degrés l'hiver, on peut couper le chauffage. La maison ne chute pas en température, hein, ça reste très confortable. Et l'été de la même manière, c'est-à-dire quand on arrive vers les journées les plus chaudes, ces murs qui sont à 19 degrés vont nous amener une certaine fraîcheur, hein, vont nous amener un certain confort thermique.
Depuis que vous parlez les uns les autres, moi j'ai un peu le sentiment qu'on revient alors à la fois, je dirais, à des principes un peu ancestraux, avec du bon sens, et aussi aujourd'hui avec l'expérience scientifique en plus. C'est-à-dire que je crois qu'on a dû beaucoup travailler sur ces différents matériaux.
Bien sûr.
On n'est pas dans l'empirisme.
Là. On n'est pas dans l'empirisme et on n'a pas non plus la prétention d'inventer des choses nouvelles. Quoi. Oui. C'est ce que moi je dis systématiquement quand les gens viennent visiter la maison. C'est-à-dire qu'on reprend des principes que les gens avaient utilisés dans l'habitat bioclimatique des siècles derniers, si ce n'est qu'il y a eu une espèce d'amnésie collective, comme on le disait tout à l'heure, après-guerre, lorsque l'énergie a été peu chère et on a oublié tous ces principes-là. On les retrouve maintenant, mais en utilisant des principes plus industriels et puis une technologie plus avancée.
Samuel Courget.
Alors, juste pour l'anecdote, j'ai remarqué, là, en arrivant à l'émission, en échangeant avec les deux personnes qui sont avec moi ici, que nous avions des profils assez différents. Je dirais, au niveau, c'est vrai qu'on ne travaille pas dans le même domaine. Culturellement, on n'est pas forcément du même milieu. Ouais. Et il se trouve qu'on est les trois habités dans une maison qu'on a choisie et qui est chaque fois une maison en ceinture bois et en paille. Donc, c'est effectivement un point que je trouvais assez surprenant. On n'est pas forcément représentatif de la population française, mais en tout cas, on représente des profils différents qu'on croise dans le milieu du bâtiment aujourd'hui. Juste pour en deuxième point, j'ai eu la chance d'être missionné sur une étude, sur un projet expérimental par le ministère de l'Équipement. C'est un projet qui a lieu dans le Jura, donc une commune. C'était la première commande publique. Une maison en ceinture bois remplissage paille, une maison en ceinture bois remplissage béton de chanvre. Et un chantier qui était lourdement accompagné, je dirais, au niveau de la recherche scientifique par l'ADEME et la Fédération française du bâtiment. Donc c'est vrai que c'est le genre d'expérience qui fait avancer le cheminblick, puisque ce type de matériau, a priori, est très séduisant. Mmh. On se dit, oui, mais c'est quoi ? C'est le retour à combien de siècles en arrière ? Et effectivement, on voit que vis-à-vis des exigences modernes, également des exigences imposées par rapport au coût de la main-d'œuvre, la paille est un matériau qui est assez pertinent.
Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas ni dans les cavernes, ni dans la soucoupe volante et moderne et tout cela. Donc, réaction d'Yvan Saint-Jean.
C'est vrai aussi. Moi, troisième habitant en bottes de paille autour de la table, je vais prendre la parole pour dire que c'est effectivement très agréable de vivre dans une maison en bottes de paille. Et pour appuyer ce que vient de dire Samuel Courget, on a parlé d'habitat passif tout à l'heure. Donc il existe maintenant des maisons aux normes d'habitat passif, c'est-à-dire extrêmement économes en énergie, dont une qui a servi un petit peu de pilote en Autriche, qui consomme 6 kWh au mètre carré, c'est-à-dire grosso modo, ça doit faire...
Attendez, ça c'est, dans ce que vous dites, c'est vraiment énorme. C'est énorme, justement, le chiffre est très faible. 6 kWh par an au mètre carré,
voilà,
c'est
alors, ça alors qu'en moyenne en France, on doit être aux alentours d'à peu près 200 kWh au mètre carré pour chauffer une maison. Ouais. Donc c'est vrai que la paille, donc là c'est de la botte de paille, on n'a pas précisé, je ne sais pas si on a précisé, donc c'est de la botte de paille qu'on utilise, hein, et la botte de paille peut être utilisée aujourd'hui pour faire un habitat extrêmement économe en énergie.
Quelle différence on fait entre une maison, on va dire, basse énergie et une maison passive ?
Alors, basse énergie et passif, donc là on est sur quasiment le même terme, peut-être c'est Samuel qui va répondre. Prendra la question
du casse-lui qui... Oui, il se trouve que je travaille énormément dans ce domaine-là. Donc c'est simplement deux niveaux différents de performance thermique des bâtiments. Donc si le bâtiment classique, on l'appellera le bâtiment standard. Donc en neuf, il est juste conforme à la réglementation thermique. Oui. Et en réponse pertinente par rapport au bâtiment standard, il y a ce qu'on appelle le bâtiment basse énergie. qui est un bâtiment qui fait la moitié du chemin, je dirais, entre le bâtiment standard et le bâtiment qui n'a plus besoin de système de chauffage tellement il est performant. D'accord. Et l'habitat passif, c'est justement cet habitat qui s'appelle aussi très basse énergie. Donc, habitat passif, c'est l'habitat très basse énergie. Et là, on peut quasiment se passer d'un système de chauffage.
D'accord. Alors bon, grande question tout à fait classique, mais qui a quand même un peu son importance. On va vous dire, oui, mais ça, évidemment, il faut énormément de moyens au départ. Ou est-ce qu'on s'y retrouve en mettant, je ne sais pas, 10-15% de plus assez vite avec les économies d'énergie? De toute façon, on va gagner de plus en plus parce que je ne pense pas que le baril va redescendre à 25$ tout de suite. Samuel Courget.
Alors, justement, il y a une différence sur ce point-là entre le bâtiment passif ou très basse énergie et la basse énergie. C'est qu'avec le baril au prix, je dirais, autour de 50$, le bâtiment basse énergie, donc grosso modo, qui est trois fois plus performant que ce qu'impose la réglementation thermique française actuellement, est le meilleur investissement en termes investissement consommation.
Oui, c'est ça.
Dès aujourd'hui, alors que le passif, effectivement, c'est plus cher et plus complexe actuellement en France à réaliser.
D'accord, donc on va commencer par là. Alors vous avez donc effectivement dans ce numéro de la maison écologique de juin-juillet, donc tout un dossier sur l'habitat passif qui passe à l'action. Je tiens aussi à citer, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, en Midi-Pyrénées, vous avez une excellente revue qui vient de sortir, qui s'appelle Friture, voilà, www.friture.net, et donc ils consacrent leur dossier à l'éco-construction, c'est vraiment très très bien. Et nous avons des maires qui s'intéressent à ça depuis un certain temps, et nous avons en ligne Roland Briand. Roland Briand, bonjour.
Bonjour,
vous êtes le maire de Bokeo. Alors Bokeo, nous sommes en Bretagne, 1 000 000 d'habitants, nous sommes entre Guingamp et Saint-Brieuc. Et vous êtes donc maire de cette commune depuis 17 ans, vous êtes médecin, vous avez réfléchi à ces problèmes depuis déjà pas mal de temps. On a parlé de l'Autriche, je sais que vous allez pouvoir nous en parler. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, enfin quel est le projet actuel? Parce que je sais que vous étiez parti sur la haute qualité environnementale, sur le HQE. Bon, qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans votre commune, Roland Briand?
Nous avons lancé un projet donc, qui est déjà relativement avancé, puisque nous avons et le terrain et les futurs habitants, un projet de bioclimatique label passif, hein, donc véritablement label passif. Donc le but à atteindre étant une consommation égale ou inférieure à 15 kWh par mètre carré et par an. Donc, ce que j'entendais tout à l'heure, on n'atteindra pas les 6 probablement, mais en tout cas, donc nous ferons tout pour arriver aux 15 kWh. Hein, donc le cahier des charges sera construit donc, de manière à y parvenir. Hein. Donc bon, ce que j'entendais tout à l'heure est tout à fait exact et j'y souscris tout à fait, bien entendu. Hein, mais nous n'inventons rien du tout. Hein. Ce que nous allons faire existe déjà et fonctionne parfaitement bien. Donc j'ai fait récemment un voyage en Autriche, donc avec le CAUE des Côtes d'Armor. Et pendant ce voyage, nous avons pu visiter nombre de maisons qui fonctionnent sur ce principe et qui fonctionnent parfaitement bien. Donc il ne s'agit pas d'entraîner les futurs habitants dans des expériences un peu hasardeuses.
Dans des galères, pas du tout, ça fonctionne déjà.
Ça
simplement,
fonctionne
est-ce que l'on peut, est-ce que en France, vous avez trouvé donc les bons artisans, ou bien est-ce que vous êtes obligé de passer par l'Autriche, que l'on comprenne?
Voilà, alors donc nous avons pris... Ils ont pris contact avec un architecte autrichien qui est très expérimenté dans le domaine, hein, et qui va être un petit peu le tuteur, disons, des architectes français qui vont travailler sur le sujet. Hein. Donc c'est vraiment une coopération internationale, je dirais une coopération européenne en tout cas. Hein. Donc entre ceux qui chez nous veulent le réaliser mais qui n'ont pas eu cette formation, puisque si j'en crois les architectes, donc, en tout cas les écoles d'architecture françaises, oublie assez facilement d'enseigner ce type de technique, et les architectes autrichiens, donc parce que c'est l'Autriche que l'on a choisi, hein, tout simplement, ça aurait pu être l'Allemagne ou ça aurait pu être un pays nordique, mais architecte autrichien, donc qui est tout à fait d'accord pour apporter sa connaissance et la sécurité de ce qu'il a déjà réalisé.
Mais donc vous impliquez aussi donc les futurs habitants dès le départ, hein,
oui,
Roland Briand, ça pour voilà, il faut que tout le monde adhère à cette histoire.
Quoi. Complètement. Ça je crois que le constat que j'ai pu faire dans ma commune, si vous voulez, c'est que on y vient habiter parce qu'éventuellement on n'est pas très loin de Saint-Brieuc, parce que nous sommes à 25 minutes de la mer, parce que le terrain est relativement moins cher qu'un petit peu plus près de la grande ville.
Donc vous souhaitez marier le côté rural et le côté urbain, quoi.
Je souhaite que les futurs habitants deviennent véritablement des acteurs de leur habitat, de leur lieu de vie et de la et du bâtiment lui-même dans lequel ils vivent. Donc parce que bon, jusqu'à là, c'était ils achetaient un terrain relativement peu cher, ils faisaient appel éventuellement à un constructeur et puis voilà, ils achetaient sur catalogue. J'entendais le sketch le sketch que vous passiez tout à l'heure, mais je crois qu'il est tout à fait réel, quoi. On le vit au quotidien, ce genre de choses, hein. Donc c'est pour vraiment éviter tout cela et pour faire en sorte que ceux qui vont venir habiter dans ce quartier, hein, soient les acteurs, soient les créateurs, soient les inventeurs de ce quartier.
Alors une véritable adhésion, et je vois aussi, là je parlais de coûts, parce qu'une fois de plus ça trotte dans la tête de tout le monde et c'est normal, le surcoût initial il est estimé à combien et vous allez pouvoir l'amortir en combien de temps?
Écoutez, déjà notre commune va réussir à proposer très probablement donc un terrain à un prix défiant toute concurrence. D'accord. Qui sera déjà un avantage par rapport aux futurs habitants. Hein. Alors le coût, oui, effectivement, le coût, a priori, on partirait sur un surcoût de construction de 10 à 15 %.
D'accord. Hein.
Il faut tout de même savoir que sur tout nombre de maisons que j'ai pu voir en Autriche, il n'y a aucun surcoût pour cet habitat bioclimatique type passif. Hein. Mmh. Il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas de surcoût parce que évidemment, c'est standardisé probablement, c'est industrialisé, c'est une construction qui se fait de manière vraiment très habituelle dans ces territoires. Donc le surcoût existera probablement, il existera parce que ce type d'habitat n'est pas développé actuellement chez nous.
D'accord, et effectivement, après on s'y retrouvera avec les économies d'énergie. Merci beaucoup Roland Brion pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le maire de Bokeo, nous sommes dans les Côtes d'Armor, il doit faire beau en ce moment comme un petit peu partout, enfin quoi que, je ne sais pas, là, j'ai pas regardé la météo là tout de suite, il y a quelques minutes. Et moi ça m'intéresse aussi d'avoir quand même maintenant les bons élèves, entre guillemets, les bons matériaux. J'aimerais qu'on en passe quand même un certain nombre en vue, parce que là on peut évoquer, je ne sais pas moi, le bois, vous avez parlé de différents isolants, la terre crue, la pierre, par quoi on peut commencer, juste simplement qu'on puisse donner quelques pistes de réflexion sur ces Yvan Saint-Jour.
Oui, donc je pense qu'effectivement, le bois, il est incontournable. Le bois, on peut le trouver sous différentes formes. Hein. Alors, brut, donc le bois massif, ça va être sous forme tout simplement de bois rond, qu'on appelle la fuste, ou alors taillé, donc là, ça va être le madrier. Il y a aussi des bois maintenant en lamellé collé, donc type panneau de bois massif reconstitué, qui sont très performants énergétiquement, toujours pareil. On a aussi, bien sûr, encore beaucoup plus répandu l'ossature bois, donc là, ce sont des sections plus petite, plus mince, mm-hmm. Et puis qu'on va fermer avec des panneaux type OSB, fermacelle, etc. Et là, on va rajouter un isolant complémentaire. Donc l'isolant va être donc les isolants qu'on utilise en éco-construction, que ça va du chanvre, laine de chanvre, laine de mouton, liège, feutre de bois, ouate de cellulose, donc là issu du papier recyclé. Voilà. Ensuite, on va
pardonnez-moi là, moi je me tourne vers Samuel Courget. Lorsque par exemple on pense à de la laine de verre aussi comme isolant, on peut se dire on récupère des bouteilles là les uns les autres. Il y en a que 50% malheureusement qui sont recyclés. Peut-être qu'on peut refabriquer de la laine de verre, on peut dire que ça peut être bon ça aussi, non ?
Alors je pense qu'il y a une réalité culturelle dans ce qu'on appelle l'éco-construction, ouais, en France, qui fait que les personnes qui construisent et qui appellent leur maison ou leur bâtiment biologique, écologique, éco-construit et autres, c'est vrai que ces personnes-là n'aiment pas a priori tout ce qui est industriel et cherchent ailleurs.
Oui, ça on a bien
compris,
j'irais,
c'est plus une réalité culturelle. J'irais, si on fait le bilan environnemental des matériaux, par exemple, effectivement, on peut se dire une laine minérale dense, bien posée, faite à partir de verre recyclé, n'est-elle pas plus pertinente vis-à-vis de l'environnement qu'un coton qu'une laine de coton qui fait le tour du monde ou qu'une plume de canard qui est effectivement a priori possible sur le marché que parce qu'il y a des entreprises d'agroalimentaire derrière énormes qui peuvent lancer ce type de produit. Donc j'irai par rapport à ça, c'est vrai que quand on commence à quantifier les performances et à décortiquer les choses, on voit que c'est pas si évident que ça. Il y a pas, qu'il y a pas les matériaux industriels d'un côté, les matériaux naturels,
les bons et les méchants.
Et rien que par rapport à l'anecdote, je dirais l'amiante est un matériau naturel.
Ah mais c'est excellent. Bien sûr, c'est absolument excellent. Bon, c'est peut-être un petit peu toxique, c'est ce qu'on a compris. Non, mais c'est vrai que c'était tout à fait performant. C'était pas cher. C'est toxique. Et heureusement, évidemment, que c'est la France y est mise très très tôt. Je crois qu'on est arrêté parmi les derniers à l'arrêter en 1997, me semble-t-il. Samuel, pardonnez-moi, Yvan Saint-Jour.
Oui, notez bien que j'avais pas cité la plume de canard et ni quel autre matériau.
Bon, alors sinon, donc la botte de paille, on en a parlé. Ouais. Écoutez ce message, c'est tout à fait intéressant. 01 42 20 40 40.
Voilà, je suis étudiant en génie civil, en DUT. Et le béton, et notamment le ciment, ça n'a rien de naturel. Hein. C'est un constituant extrêmement polluant. En cours, on essaie de me convaincre du contraire. Le ciment, ça doit être cuit à 1450 degrés, ce qui est une température énorme. C'est extrêmement polluant. Je trouve ça scandaleux qu'on nous apprenne que le béton est le meilleur matériau de construction. Alors qu'il existe l'argile, la pierre, il existe un tas d'autres choses qui ne sont pas enseignées. Ben, merci pour votre émission, à bientôt, au revoir.
Ben, je vous remercie beaucoup. Donc là voilà, est-ce qu'on est vraiment dans les idées reçues? Parce qu'on fait des choses formidables aussi avec le béton. Moi je ne suis pas un technicien, mais je veux dire que c'est quand même, ça nous a aussi drôlement rendu service. Certes, il y a un attrait, c'est que c'est pas cher, donc le béton. Derrière, il faut mettre un isolant, bon, sûrement. Alors qu'est-ce que l'on peut dire justement? Est-ce que c'est aussi simple que ça, quoi?
Ouais, je pense que déjà il y a béton et béton. Si on parle du bloc de béton, donc le fameux parpaing, hein, que tout le monde connaît. Bon, le parpaing.
C'est une jolie pub nous aussi sur France.
Voilà. Le parpaing, bon, c'est vrai qu'en termes d'énergie grise, par exemple, il se défend pas trop mal. Il peut être produit localement parce qu'il y a beaucoup d'usines qui produisent des parpaings, donc ça c'est clair. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. Personne n'habite dans une maison en parpaing. Ça peut être très sympa pour construire un garage, mais effectivement, si on veut construire une maison avec un parpaing, il faut automatiquement rajouter quelque chose. C'est pas un élément tout seul. Ensuite, bon, c'est pas un matériau qui est très respirant, alors qu'on aime bien ça dans l'éco-construction. Voilà.
Oui.
Samuel peut rajouter quelque chose.
Alors, le béton en soi ne me dérange pas tellement. J'ai moi aussi, comme l'auditeur, une formation à l'origine de génie civil. Et je pense que si j'avais été professionnel du bâtiment au début du 20e, j'aurais été enthousiasmé par ce matériau révolutionnaire. Voilà. La réalité, c'est qu'on le met à toutes les sauces. Et le problème, c'est qu'en France, on isole par l'intérieur. Et de fait, je dirais, on a les inconvénients que peut nous amener ce type de construction, de système constructif. Mais le béton, avec une couverture thermique à l'extérieur, je dirais, donne des bâtiments très performants vis-à-vis de la réalité thermique. Oui. Voilà. Encore ce que je disais tout à l'heure, dans l'éco-construction, il y a une espèce de petite aversion par rapport à tout ce qui est industriel. Et c'est vrai que le béton a une histoire lourde. Quelque part, il porte, il traîne avec lui la réalité du bâtiment du 20e.
On le fait très vite, Thierry Bafou.
Ben oui, je pense que c'est intéressant d'un point de vue thermique, mais pas forcément d'un point de vue hygrométrique, comme l'a dit Yvan tout à l'heure. Donc c'est quand même la limite de ce produit-là, hein, qui dans l'habitat, va quand même pas être forcément fantastique.
Pour la rénovation, en quelques secondes, je sais que c'est pas facile, parce que ça mériterait vraiment une émission complète, ça. Mais sur la rénovation, qu'est-ce que l'on peut faire pour sur des pavillons? Est-ce qu'on peut, depuis l'extérieur, arriver à mieux isoler un pavillon?
Voilà, bah c'est ce que Samuel vient de dire. C'est vrai qu'en France, on a une culture de l'isolation par l'intérieur, donc on se prive de l'inertie. Et c'est vrai que si déjà on peut intervenir sur les bâtiments existants en rajoutant de l'isolation par l'extérieur, en changeant impérativement tous nos simples vitrages en double ou triple, et en isolant les toitures, bon, bah on sera déjà... quitte par rapport à ça.
Alors nous avons beaucoup de références sur le site, Thierry Bafou, D'un voyage à l'autre, donc ça c'est votre histoire, donc à travers les différents habitats du monde. Yvan Saint-Jour, rédacteur en chef de la Maison écologique, touchant donc à l'habitat passif, et puis il y a de très très nombreux dossiers, hein, qui existent depuis des années que l'on peut récupérer avec la Maison écologique. Le livre de Samuel Courget et de Jean-Pierre Oliva qui vient de sortir, qui s'appelle La conception bioclimatique aux éditions Terre Vivante. Je pense que l'on peut parler de cela encore pendant pas mal de temps, de le faire aussi à la rentrée. Et puis dans quelques instants, ça va être Nathalie Fontrelle avec la qualité de l'environnement. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt.
sur ma bouche tu mettais tes doigts en disant tais-toi, mais ta main là était toi, j'aimais mieux quand c'était toi, j'aimais mieux toi. On va aux îles anglo-normandes et je leur fais arpenter les landes à ces petites sœurs. On dort à l'hôtel près du phare, le papier peint le grand couloir où t'avais peur. On revient en bateau par Granville, comme tu aimais. Je fais toujours beaucoup l'imbécile.
Eh bien voilà, vous avez découvert quelque chose, Nathalie Fontrelle. Bonjour chère Nathalie.
Bonjour Denis.
J'aimais mieux quand c'était toi, c'était bien. Hein,
moi j'aime bien quand c'est vous.
Eh bien c'est bien, alors merci beaucoup. Bon, c'était Souchon, mais là je ne peux pas rivaliser, voilà. Donc notre actualité débute, vous l'avez compris, et vous voulez nous emmener dans le monde du silence aujourd'hui, Nathalie.
Du silence?
Ben oui, non.
Non, pas là je tout. Vous emmène dans la mer.
Parce que moi quand j'étais tout petit, vous savez, les films de Cousteau, on connaissait ça, donc on parlait du monde du silence pour parler de la mer.
Eh oui, sauf que vous allez voir, franchement, c'est très très bruyant la mer. Écoutez par exemple ce banc de morue, c'est pire qu'un poulailler.
C'est évident que je regarderais la morue un peu autrement. Alors, comme je n'ai pas mon dictionnaire morue français, qu'est-ce qu'elles disent là, les morues?
En fait, elles sont extrêmement préoccupées et occupées parce que c'est la période de reproduction. Alors, il faut absolument trouver l'âme sœur là.
Ouais, mais alors, comment elles font, je dirais, pour parler? Nous, on a deux cordes vocales, mais les poissons, comment ils font?
Eh bien, en général, les poissons utilisent leur vessie natatoire. Vous savez, c'est une poche qui est située dans l'abdomen et qui assure la flottabilité du poisson. En fait, il la gonfle plus ou moins de gaz en fonction de la trajectoire qu'il veut prendre. Mmh. Et cet organe lui permet également de parler.
Si je peux me permettre, si je comprends bien, ils émettent des gaz, quoi. C'est un peu ça.
Ouais, hein, c'est
en
ça.
Parlant.
Oui, c'est voilà. Ça. Oui. Et ils parlent et des fois ils se chamaillent comme ces deux petits orins.
Je précise que l'orin, c'est A-U-R-I-N, si vous ne connaissiez pas ce poisson. Mais oui, on est là pour apprendre des choses. Pourquoi ils parlent, les poissons, Nathalie ?
Alors là, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est une dispute à propos d'un territoire. Hein. En fait, il y en a un qui dit hey, dis donc, t'es chez moi.
Non, pas du tout, c'est moi qui suis chez toi, qui suis chez moi. Enfin, voilà, oui. Bon.
Et là, écoutez, là, c'est un peu le même scénario qui va se passer pour ce couple de poissons clowns, parce qu'il défend son anémone de mer qui lui sert de nid, et puis arrive un visiteur indésirable.
Et alors là, qu'est-ce qu'il dit exactement?
Eh ben, il dit va-t'en, t'es chez moi, je veux pas que tu viennes.
Mais alors ça peut être aussi j'ai bien mangé, ça peut être ça aussi.
Alors oui, tout à fait, c'est ce que dit par exemple la castagnole quand elle vient de capturer une proie.
La castagnole, ça.
Ouais. Ah, mais bon, en fait, Denis, vous savez, l'essentiel du discours tient en deux mots, c'est je. T'aimes.
Moi non plus.
Oh, c'est pas très gentil de me dire ça, Denis.
Moi, je crois pas. Oui, ça, oui.
Bon, alors bon, pour les poissons, c'est comme beaucoup d'êtres vivants. Hein, oui. La parole, c'est d'abord une arme de séduction. Mmh. La femelle gobie noire choisit son partenaire au son de sa voix.
Ah oui. Oui, c'est des drôles de bruits. Enfin, c'est une drôle manière de déclarer sa flamme. Mais c'est comme ça chez les poissons, même en émettant des gaz.
Et d'ailleurs, ils sont peut-être hilarants, ces gaz. Vrai. Et puis, vous savez que si vous faites rire une femelle, la partie est à moitié gagnée.
Très bien. Alors, si on veut retrouver donc ces extraits, se shooter donc à ce CD de poissons, qu'est-ce que l'on fait?
Alors, c'est un CD, en fait, édité par Nage Vert Productions et intitulé « Poissons, la voix des océans ».
Et vous l'avez compris, on va rester dans la mer. Et que pourraient-ils dire d'autre les poissons s'ils pouvaient interpeller les hommes, Nathalie?
Vous nous surexploitez. Ah oui. Eh oui, 60% des poissons sont pêchés au-delà des seuils de sécurité fixés pour la survie des espèces. On les pêche alors qu'ils n'ont pas encore eu le temps de se reproduire. Bref, on vit de la mer.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter la casse?
Eh bien, Greenpeace offre une solution. C'est un dépliant intitulé « Et ta mère ?» Tu y penses.
Bon, mer évidemment, M-E-R.
Voilà. Hein, et on y trouve notamment la liste des espèces les plus commercialisées avec la taille qui devrait être celle du poisson mis à la vente. Exemple, 36 cm pour le bar de l'Atlantique, 70 cm pour le thon rouge de Méditerranée, etc. etc.
Alors, pardon, parce que moi, je ne vois pas forcément très très bien avec mon double décimal chez le poissonnier.
Comment
votre thon, là?
Sais, Denis. En plus, j'ai essayé et c'est vrai que je me suis fait envoyer balader. Mais bon, si on s'y met tous, peut-être qu'on va arriver à faire changer les choses. En tout cas, dans ce guide, on liste aussi les espèces qu'il faudrait éviter d'acheter et de consommer.
Bon, moi j'adore les crevettes roses.
Ouais, moi aussi.
Oui, alors elles proviennent en majorité de l'aquaculture.
Oui, sauf que pour produire 1 kg de crevettes d'élevage, il faut 3 kg de poissons sauvages.
C'est cool. Alors me dites pas que c'est la même chose pour le bar d'élevage ?
C'est pire. 4 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de bar.
Bon, qu'est-ce que je fais ? Je me rabats sur une seule ?
Ben non. L'espèce est surexploitée avec des chaluts qui en plus raclent les fonds marins et détruisent tout.
Alors d'accord, mais le thon, on dit que c'est bon donc...
J'adore les sushis. Oui. Ouais, mais là encore, la gastronomie japonaise est une catastrophe pour l'espèce. Le thon germont et le thon rouge figurent sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Qu'est-ce que je vais faire ? Je me mets au grenadier ou je me mets au sabre ? À l'empereur ?
Ça, ce sont les poissons de grand fond. Hein. Vous mettez donc dans votre assiette des vieillards, Denis.
Ah bon ?
Parce que, oui, ces poissons ont une croissance très lente. Ils peuvent vivre plus de 100 ans. Et cette longévité n'est pas un hasard, en fait, hein, parce que leur maturité sexuelle est très tardive. Et là encore, nous exploitons un stock, entre guillemets, dont on ne connaît pas la vitesse de reproduction.
Alors, en tout cas, pour rien au monde, je les cuisinerai un steak de baleine.
Et malheureusement, Denis, la Commission baleinière internationale qui se tient en ce moment risque d'autoriser à nouveau la chasse commerciale.
Il paraît qu'il y a un moratoire, où est-ce qu'on en est, là, le moratoire ?
Oui, depuis 1986, ils protègent les baleines, même si, vous savez que les Japonais continuent de les tuer sous couvert de recherches scientifiques.
Bien sûr, voilà. Vive la science.
Voilà, et même si les Norvégiens, eux, ils sont plus clairs, hein, ils ont repris la chasse commerciale, ils le disent. Bon. Mais bon, cette année, la pression des pays chasseurs est très très forte à la Commission baleinière internationale. Et le Japon travaille depuis des années à monnayer l'appui, à monnayer les voix des pays les plus pauvres. Je te donne des sous. Hein, ça s'appelle l'aide au développement, mais tu votes avec moi pour la levée du moratoire.
D'accord.
Et cette année, le Japon a réussi à convaincre 6 petits états insulaires des Caraïbes de voter comme lui.
Et donc une voix compte au même titre que celle du Japon et les
exactement.
Autres. C'est exactement pareil. Donc verdict en fin de semaine prochaine. Allez, 01 42 20 40 40.
Bonjour, c'est Blandine dans le Loir-et-Cher. Je voulais savoir à quand les ordinateurs avec les dynamos, comme on équipe bientôt l'Afrique, pourquoi pas la France, et les jouets, quand est-ce qu'on remplace les piles par les dynamos. Merci, à bientôt.
Oui, bonjour. Je voulais vous faire part de ceci. Je me suis intéressée au chauffe-eau solaire. Or, la défiscalisation n'est que pour les résidences principales. Et il est clair que pour beaucoup d'entre nous, quand on rénove, si on veut mettre un chauffe-eau solaire, c'est dans des résidences secondaires. Voilà, merci, au revoir.
Et oui, bon courage à vous, parce que votre remarque est parfaitement juste, madame.
Oui, elle est juste, mais en même temps, bon, je veux dire, rien ne l'empêche de mettre soit une éolienne, soit un poêle à bois, soit un panneau solaire sur sa résidence principale.
Voilà. Donc effectivement, madame, vous avez des possibilités, d'autant que les énergies vertes ont quand même le vent en poupe, Nathalie.
Oui, alors si vous passez près de la porte de Versailles en ce moment à Paris, gare aux embouteillages, parce que le salon des énergies renouvelables est ouvert au public cette année, hein, c'est pas simplement réservé aux professionnels, et c'est la ruée sur leur verre. Un exemple tout simple, les ventes de poêles à bois dont je parlais à l'instant ont grimpé de 25%. Et le gouvernement vient d'annoncer une augmentation du tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque. Hein. Vous savez que cette électricité est produite par les panneaux solaires qui transforment directement l'énergie du soleil en électricité. Ce tarif va passer de 15 centimes d'euros à 30 centimes d'euros le kilowattheure et jusqu'à 55 centimes si les panneaux sont intégrés au bâtiment.
Ça vaut le coup de s'y intéresser si on s'intéresse qu'à son porte-monnaie. On va se dire tout va bien.
En tout cas, ça va mieux. Hein. Pendant 10 ans, le président du syndicat des énergies renouvelables...
Il a ramé. Hein.
Il a sonné le tocsin même hein, pour dire au gouvernement « Oulala, nous n'atteindrons jamais les objectifs fixés par la directive européenne. C'est 21% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2010. Je vous rappelle qu'on est à 15% aujourd'hui. Mais cette année,
grâce à l'hydraulique.
Grâce à l'hydraulique. Oui. Aux gros hydrauliques, hein, même, oui, hein, les gros barrages. Mais cette année, en fait, André Antolini a plutôt le sourire.
Je dirais que 80% du chemin est fait et que même si on n'est pas en 2010 aux objectifs, en tout cas, on est sur la bonne pente. Les consommateurs sont au rendez-vous. Le cadre économique et institutionnel est quasiment finalisé. Même si on n'atteint pas les objectifs, ce qui compte, c'est de savoir si on est sur la bonne pente. Ma réponse est oui, on est sur la bonne pente.
Qu'est-ce qui a changé les choses ? La fiscalité ?
Oui, notamment la fiscalité. Un certain nombre de mesures favorables prises en faveur des énergies renouvelables dans l'habitat, notamment le crédit d'impôt, qui est de 50% pour les équipements installés dans l'habitat en résidence principale.
La fiscalité vous a aidé, le prix du pétrole aussi.
Oui, bien entendu, mais ça, je crois que le prix du pétrole nous a aidé dans la mesure où nos concitoyens ont pris conscience qu'il fallait se tourner vers d'autres formes d'énergie. Le prix des énergies renouvelables va dans le sens de la baisse, pendant que le prix des énergies fossiles va dans le sens de la hausse.
On peut se dire, Nathalie, que ça va bien pour les particuliers parce qu'ils sont aidés fiscalement, mais il y a quand même un couac.
Eh oui, il y a un couac. Hein. Pour l'habitat collectif, notamment, il n'y a pas de crédit d'impôt. Alors les travaux peuvent être subventionnés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, mais le problème c'est que les caisses sont vides et les professionnels regrettent que les crédits ne suivent pas. Les régions Île-de-France et Languedoc-Roussillon sont les seules hein, qui aient débloqué des fonds. Partout ailleurs, les projets sont bloqués faute de financement.
Alors, on va rester dans l'énergie avec l'ouverture de l'enquête publique sur l'EPR, donc le réacteur nucléaire de troisième génération qui doit être construit à Flamanville.
Et la procédure sera close le 31 juillet. Les habitants ont donc un peu plus d'un mois pour consulter les dossiers et donner leur avis. Vous remarquerez tout de même que nous sommes un tout petit peu à la veille des vacances d'été. Et même que dans 15 jours, on sera carrément en vacances. Mais bon, ce serait sans doute être de très, très mauvaise foi que de dire que le gouvernement l'a fait un petit peu exprès.
Oh non, Nathalie, je ne peux pas le croire.
Comme il n'avait pas fait exprès non plus, hein, Denis, de décider de construire le réacteur avant de lancer un débat public sur la construction de l'EPR.
Non plus.
Alors évidemment, les écologistes sont rappelés au bon souvenir des autorités en diffusant à nouveau le document confidentiel défense, qui n'a d'ailleurs plus rien de confidentiel depuis très longtemps.
On le trouve sur plusieurs sites internet.
Hein, oui, et le document admet que l'EPR ne résisterait pas au crash d'un avion de ligne.
Et puis les parlementaires ont adopté la loi sur la gestion des déchets radioactifs.
Oui, loi qui autorise l'enfouissement des déchets en couches géologiques profondes. Le site sera choisi en 2015. Alors, comme il n'y a qu'un laboratoire de recherche Cetabure dans la Meuse, on n'a pas vraiment le choix. Les premiers colis de déchets radioactifs doivent arriver en 2025. Le coût, 15 milliards d'euros sur 100 ans.
Oui, quand même. Et après 100 ans,
on ferme, on oublie. Évidemment, cette solution ne satisfait pas du tout les écologistes.
Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, bonne chance à nos amis archéologues du futur. Merci beaucoup, chère Nathalie Fontrelle. Et puis, mais à bientôt.
À bientôt, Denis.
Est-ce que ça sent un peu presque la fin de saison, là, quand même?
Ouais.
À très bientôt, Nathalie.
À bientôt.
Mais oui, il reste encore une émission, on va se retrouver la semaine prochaine tranquillement. Pierre-Yves de Rolin et Benjamin de la Gâtinais étaient avec nous à la technique. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Jean-Christophe Pinaza et à Xavier Pestugia qui a donc réalisé CO2 Mon Amour. Karl Vasseur a choisi quelques disques, on en a passé deux. Anne Gouzon a créé les liens sur le site, alors vous n'hésitez pas, vraiment sur le site de CO2 Mon Amour, il y a beaucoup d'informations, www.franceinter.com. Possibilité pour vous d'enregistrer cette émission pendant une semaine, de la réécouter sur votre ordinateur préféré chéri, et puis donc de pouvoir l'enregistrer après et de vous la rediffuser 12 500 fois. Mais oui, la semaine prochaine, on va parler de vent, de houle, de vagues, de marées, les pieds en éventail, pas du tout, on va parler des énergies, qu'est-ce que l'on peut attendre des énergies de la mer, c'est intéressant aussi comme sujet. Dans quelques instants, ce sera Le Monde selon WAM, les adolescents avec Isabelle Giordano qui vous attend. Je vous souhaite un excellent week-end. France Inter, il est 15h.